Battista, 20 ans après, publié « Au diable Vauvert ». Alors, rapidement, Yves Charnet, un écrivain qui vit actuellement à Toulouse hein, depuis quelques temps.
1996,
oui, j'ai fait même pas mal de temps. Et qui vient de Nevers, après avoir fait de brillantes études à une école normale supérieure, passé l'agrégation, et qui est universitaire, donc qui enseigne à l'école d'ingénieurs super-héros à Toulouse. Alors, il a publié...
La Pesque School, comme on dit maintenant.
Ah oui,
ça bien.
Il a publié, dès 1993, donc un peu avant d'arriver à Toulouse, si je comprends bien, hein, vous êtes arrivé à Toulouse, auréolé de cette gloire de la prose du fils qui a paru à la table ronde, donc en 1993, qui a eu un grand écho littéraire et qui a été repris en édition de poche, hein, et que j'invite d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas lu à le faire, à lire « Prose du fils hein, », puisque, en définitive, ce livre va être le départ de toute une œuvre qui va se continuer sur une idée qui est une idée sous-jacente de tous ces livres, c'est comment faire face à la dépossession du père. Voilà. Alors, Yves Charnet va... nous régaler donc de tout un tas de livres après la prose du fils. Je vais citer les plus récents, c'est Chute. Nous avons eu le plaisir donc de faire une émission sur ce livre. Ça a paru en 2020, dont l'émission, vous pouvez la retrouver sur notre site lespoètes.site à l'année, pour écouter les émissions à l'année 2020. Vous pouvez toujours l'écouter, hein, c'est ce qu'il y a. Quand même d'intéressant sur ce site, c'est que nous allons pouvoir pérenniser ces instants qui sont des instants qui étaient autrefois, la radio était quelque chose de fugace. Voilà. Et grâce maintenant à notre technologie, vous pouvez, ces instants fugaces, vous pouvez les réécouter. Et le dernier, pour lequel nous avons eu le plaisir de recevoir Yves Charnet, après ce livre Chute, donc qui a paru en 2020, c'est l'année dernière. Il y a peu d'ailleurs, quelques mois, le libraire de Gambetta étant cette magnifique librairie de Toulouse, cette grande librairie Ombre Blanche, qui est tenue par Christian Torel. Alors le libraire de Gambetta, donc cette complicité, cette amitié qu'avouait Christian Torel à Yves Charnet et réciproquement, ce beau livre a paru chez Tarbuste.
Voilà. Comme chute. Qui est un moment important dans ma vie d'écrivain.
Oui.
Parce qu'après avoir été, plus de table ronde, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Il y a vraiment une traversée du désert très difficile et c'est vraiment l'accueil des éditions Tarbuste était, pour moi une joie, une chance et un plateau de travail.
Avec Jamel.
Cette équipe merveilleuse avec Jamel, Claudine et Tatiana. Oui. Mais j'insiste sur ce moment-là parce que un écrivain, il ne fait pas que des livres. Il semble que ces livres sont pris dans des mains fraternelles et ce qui est le cas. Oui, puisqu'en plus, le libraire a fait vraiment accentuer la rencontre entre Christian Torel et les Tarbustes. Ils aiment passer du temps ensemble.
C'est un
bonheur pour moi.
Oui, on a le plaisir de les voir souvent.
Absolument.
Donc,
une très belle exposition qu'il y a eu cet été, là.
La partie
galerie de la librairie. Et nous étions encore là la semaine dernière, il y a 15 jours, on s'est vu pour la soirée d'hommage à Antoine Emaz. Vous étiez venu, qu'on faisait avec Ludovic de Brandt.
Oui, une très très belle soirée sur Antoine Emaz.
D'ailleurs, on a décidé de vous remercier, qu'on ferait une émission spéciale.
On fera une émission sur Antoine Emaz, qui le mérite bien, et surtout qu'on a le plaisir quand même d'avoir, ici à Toulouse, un des spécialistes d'Antoine Emaz, qui est Yves Charnet. Voilà. Donc, ce serait bête de s'en passer.
Avec plaisir.
Alors, cette semaine, nous allons continuer ce qui nous avait occupé la semaine dernière sur ce livre de lettres à Juan Battista, 20 ans après. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, donc, vous aviez déjà publié un livre sur Juan Battista, sur ses lettres à Juan Battista. Et ce livre, qui avait paru en 2008, il a donné lieu à une adaptation théâtrale, apparemment très réussie, je n'ai pas eu le plaisir de le voir, grâce au comédien Arnaud Agnel. Hein, vous en parlez d'ailleurs très bien dans ce dernier livre.
Absolument, Arnaud n'est vraiment pas pour rien dans le fait que je me suis repenché sur ses lettres et que je les ai réentendues. D'une part, le livre n'était plus disponible. Bon, ça c'est la vie des livres, c'était plutôt pas mal. Je pensais qu'il avait fait son temps et Arnaud me l'a remis dans l'oreille et sous les yeux par un solo tout à fait exceptionnel. Tous ceux qui l'ont vu le savent. Je ne peux qu'appeler ceux qui nous écouteraient et qui auraient une salle vraiment à faire venir ce garçon pour jouer ça.
Oui, voilà,
c'est vraiment un plaisir de le voir à Toulouse. Oui. Il n'y a pas eu de suite, mais j'espère d'ailleurs que le livre va permettre de le relancer, parce qu'en plus, à peine Arnaud a-t-il créé cela, le Covid est arrivé, donc c'est parti sur une très belle lancée. Mais, en tout cas, il y a eu une chose qui a compté, il y a eu une dizaine de présentations maintenant, tout avec un très grand succès, pour lui, hein, je parle pas de moi. Mais la première, je crois, très cher à son cœur, puisque c'était un ami, lui, de Jean-Baptiste, qui est né dans les taureaux, et c'était au théâtre d'Arles, 3 jours avant la despedida, c'est-à-dire avant que Jean-Baptiste Jalabert ne se retire, ne fasse sa dernière corrida, qu'on appelle la Goyesque à Arles, en septembre, où il était aux côtés du magicien Pansé, qui est mon torero de prédilection, et qui se retire. Dans 8 jours, je serai à Nîmes pour voir les adieux d'Enrique Pansé. Et Jean-Baptiste Jalabert avait fait vraiment l'honneur, parce qu'à 3 jours, ça, il y avait autre chose à faire. À 3 jours de Toré, il était venu et ça avait été un triomphe. Et je sais que c'est une soirée qui est très chère au cœur d'Arnaud Agnel que j'embrasse et qui fait absolument magnifique, mais qui m'a montré, qui a cassé tout mon livre, donc qui m'a montré que cette forme était toujours instable, puisqu'il l'a complètement remonté autrement, comme pour un solo de théâtre. Donc ça percuter quelque chose en moi. Puis il y avait le désir de Marion Mazurik de publier en poche. Et on aurait pu le publier comme il était. Et je lui ai dit cette chose un peu folle. Non, je vais le retravailler. Et alors ça a pris 3 ans. et nous voilà. Et Marion aussi a pris la patience d'attendre, ce qui est beau. Hein, je suis pas bankable, donc elle a eu la patience d'attendre. On se l'est dit les yeux dans les yeux, le soir dans les arènes d'Arles après le triomphe de Jean-Baptiste, sans signer de contrat, dans la confiance taurine. C'est des belles histoires, voilà. Il m'arrive de râler contre le Mundillo, mais il y a des très belles histoires. Et j'ai eu la chance d'en avoir 3 quand même dans ma vie d'éditorial, ce qui est pas mal, avec Denis Tillinac, avec les Tarabustes et avec Marion. Des très très belles histoires.
Alors, dans ce livre, Yves Charnay, on va retrouver tout ce qui constitue l'œuvre d'Yves Charnay. C'est-à-dire, et vous employez un très beau mot pour ça, vous y dites, c'est s'autruifier. S'autruifier. Reste encore le plus court chemin jusqu'à soi.
Voilà. Toujours passé, tous les autoportraits sont des portraits en outre. La dernière fois, c'était un libraire, c'était un torero. Si Dieu me donne la grâce et l'angle, surtout, je voudrais vraiment l'écrire, l'autoportrait en Serge Lama, je cherche l'angle, mais s'il vient, je le ferai. Mais à chaque fois, voilà, il y a eu, y compris un petit romantique mort, c'est-à-dire en Maurice de Guérin, par le détour d'un autre.
Très beau livre,
Par le détour d'un autre, y compris dans ce livre. Il y a plein de détours, parce que je suis tout le temps en train de citer Montaigne, Pascal, les autres, quoi. Mais c'est ce détour par l'autre pour se redécouvrir. Et mon ami Didier Goupil, écrivain, qui vit aussi à Toulouse, qui est un de mes grands amis à Toulouse, a inventé ce petit mot, pour parler de ce que je fais, l'autruifiction.
On pourrait ajouter l'autruifriction
et on y serait presque. C'est-à-dire se frotter. Montaigne voulait qu'on se frottât à la cervelle d'autrui, on se frotte aux autres aussi. Hein. Donc l'autruifiction, en tout cas, c'est une invention de Didier Goupil pour parler de ce que je fais.
D'accord. Voilà. D'accord. Bon, donc on est dans l'autrui fiction, donc totalement.
Ah là, tout à fait.
Là. Voilà. C'est-à-dire, là, il y a 2 vies, celle de Juan Batista et bien entendu celle d'Yves Charnay, avec tout ce paysage littéraire, artistique qui gravite autour, hein, tous ces visages de chanteurs populaires, de Van Gogh par exemple, qui gravite donc autour de ces 2 personnages centraux qui sont le torero et l'écrivain. Alors je vais vous demander peut-être de lire page 77, le journal intime du torero et C'est pour parler du doute.
Page 77. Très bien. Poyan, 26 novembre 2002.
Alors.
C'est ça, oui, une lettre à Jean-Baptiste Chartrand.
Oui, c'est une lettre.
C'est aussi des
alors, elle est peut-être un peu longue.
Oui,
on va.
Je vois vous, là, je vois ce voilà. Que vous voulez dire.
Là, il semble à feuilleter ce soir votre journal intime, oui. la page suivante, 78, pardon. Voilà.
Ah, pardon. Oui, d'accord. C'était long, sinon c'est pour ça. Il semble à feuilleter ce soir votre journal intime que c'est l'impression d'ensemble de vos dernières faena qui est détruite par des gestes inaboutis, des figures malvenues. Vous êtes traversé de soudaines indécisions. Faena, le plus souvent sans véritable retentissement intérieur, vous vous demandez, avec une sincérité touchante, si vous avez encore le droit de continuer à torer en public, cahier à ressort, dessin de petites têtes, paragraphe calligraphié par une écriture d'écolier. Cette introspection rudimentaire s'étend sur une trentaine de pages, stylo bic noir, certains mots soulignés en rouge, croûte blanchâtre du correcteur. Et jurez de garder le secret sur vos hantises de torero désœuvrés. Si vous saviez comme je vous comprends, moi-même en proie si souvent à pareil éparpillement de mes forces créatrices, il peut me traverser avec une telle fureur, ce fléchissement brutal de ma pensée. Nous sommes tous les deux, et chacun à notre manière, victimes de quelque chose qui nous laisse comme en suspens. Nos vocations soudain interdites. Et je rappelle ou j'apprends de dire que Jean-Baptiste s'est brusquement arrêté au milieu de sa carrière. On ne pouvait plus ni torer, ni fréquenter le milieu de torah avant d'y revenir, pour devenir le très grand matador qu'il est aujourd'hui. Nous ne savons plus comment faire sortir de nous les expressions les plus personnelles de nos sentiments, vous, vos gestes, moi, mes rimes. Vous préférez tout arrêter plutôt que de continuer à tourner en rond. Vous ne voulez plus donner le change, recourir à des trucs de tricheurs. La tauromachie n'est pas d'abord un spectacle, mais une mise à nu de l'âme. Non content de vous dire qui vous êtes, cet art maudit le montre à tout le monde. Tant pis pour les imposteurs. Vous n'avez tout simplement pas d'autre possibilité. Pour réaliser vos dispositions intérieures les plus profondes, vous ne devez pas seulement vous mouvoir en piste, mais émouvoir nos fibres les plus intimes. C'est à ce prix que les artistes deviennent ce qu'ils sont, des obligés de l'inquiétude.
Voilà. Alors, je crois que dans ce que vous venez de lire, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, nous sommes là, Juan Batista, Torero, et Yves Charnay, écrivain. Donc, il y a ce parallèle permanent qui va de l'un à l'autre. Et l'un et l'autre vont se confronter, en définitive, aux mêmes difficultés. Alors, c'est ce qu'il y a peut-être qui peut paraître extravagant. Et c'est ce qui fait quand même tout le condensé du livre, toute la substance du livre. C'est ce va-et-vient permanent qui peut paraître paradoxal entre l'état d'âme du torero, la mission du torero, la vocation du torero, l'essence même du torero et celui de l'écrivain.
Alors, y compris jusque dans les fléchissements psychiques.
Voilà, y compris,
traverser une dépression pendant que j'écris ce livre, et que moi-même j'entrerai dans un moment très très grave de dépression, quand le livre sort, quand le premier livre sort. Et donc, c'est une espèce de victoire sur le livre maudit de 2008, puisque je ne veux même pas le toucher, je ne veux plus parler, je suis vraiment dans une disparition. Et je veux même pas, pour moi c'est terrible, parce qu'au moment où je disparais, quelque chose sort, qui est le livre. Donc, c'est comme si il y avait une espèce de, vous savez, le furet, comme si on s'était passé plusieurs fois, pris le furet du dépressif, il faut l'appeler comme ça aussi, pour ce qui est arrivé à Jean-Baptiste.
C'est une façon aussi de surmonter.
Sans doute aussi, maintenant, sans doute, de le réparer, puisque maintenant, voilà, tout ça est...
Il y a nos catharsies.
C'est pour ça aussi que c'est soudain mon plus gros livre, puisque je ne me suis pas rendu compte.
Mais alors, les obligés de l'inquiétude, Est-ce qu'il peut y avoir...
Voilà, les écrivains, ils n'ont pas, je pense qu'un taureau, un écrivain, ça n'a pas le choix, c'est obligé.
Oui.
Et puis, c'est l'intranquillité, comme disait, comme disait le grand Psoa.
Oui, le journal de l'intranquillité. Oui.
Les obligés de l'inquiétude.
Oui. Alors, on va reparler un petit peu du style. Hein. On en a parlé la semaine dernière, mais on va le rappeler. Et vous dites, je l'aurais cherché toute ma vie, la poésie dans la prose. Mmh. Hein? Alors ça, c'est très important, parce que...
Là, c'est ma quête, à moi.
Voilà,
ma quête comme écrivain.
Ma quête comme écrivain. À mon avis, c'est une quête qui se poursuit, mais qui a toujours été réussie. Je n'ai vraiment pas de doute là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse en avoir. Hein. Mais on va insister là-dessus, et on va parler, vous dites aussi, on me caricature en bouffon du narcissisme, en clown de l'autofiction. Voilà. La plupart des écrivains parlent d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, les grandes œuvres sont toujours des œuvres où l'auteur parle de lui-même. Pourquoi le fait de faire de l'autofiction ou de l'autrui-fiction, les deux, serait une preuve de narcissisme? Qu'est-ce que le narcissisme a à voir là-dedans?
Oui, enfin, en vous entendant, c'est une réponse un peu à côté, mais j'aggrave mon cas, puisque l'autofiction, c'est un mauvais genre. Quant à la corrida, je vous dis pas. Donc, au fond, gratitude à Marion. Mais, oui, c'est bon, la foursa sous la, dans le sous-sol, rayon Taurin. Donc, j'aggrave mon cas. Sinon, je comprends très bien que je prends un peu tous les côtés. De même qu'on caricature les toreros, on est toujours la caricature de soi-même, donc je la comprends très bien. Et en tout cas, quand on fait ça, c'est des entreprises à la Gary quand même. C'est-à-dire, Gary était tellement sensible à ça, à la clownerie de l'écriture. Il est allé, vous savez comme il est allé loin dans le déguisement, dans le dédoublement, y compris dans la foire, puisque lui avait accès aux médias. Même si c'était un moment où l'écrivain Gary était si déconsidéré, bon, il prend cette revanche exceptionnelle avec Ajar, puisque tout le monde dit, ah, le pauvre Gary, c'est fini. Oui. Bon, il invente le génial Ajar. Et je trouve, j'ai refait avec les élèves des extraits de La vie devant soi, mais quel livre. C'est exceptionnel. La vie devant soi, mais quel verbe stylistique, c'est exceptionnel. Bon. Mais, vous savez ce que ça lui coûte, ce que ça va coûter en vie, en drame, hein. Voilà. Mais ça va avec la clownerie aussi, hein. Même la corrida, il y a une corrida farce, il y a une corrida aussi avec des clowns, des taureaux piscines, tout ça. Enfin, voilà, le sublime et le grotesque, tout ça se mélange. Quant à la question du narcissisme, tant mieux pour ceux qui en ont pas. Ça devrait être bien, je sais pas. Ils nous raconteront. Ceux qui n'ont pas de narcissisme du tout.
Le narcissisme.
Ils viennent le dire à la télévision.
N'est pas.
Ils ont beaucoup à nous apprendre.
Elle n'est pas dénuée de turbulence. Hein, ce que vous dites plus loin, hein, c'est plein de turbulence dans l'espace du dedans. Ah. Bon, c'est un aveu terrible quand même. C'est-à-dire, bon, la nécessité de l'écriture.
On est né troué, ça souffle fort, comme aurait dit Michel. Hein, c'est ça.
Alors. On
y compris que comme Bautista, c'est pas son nom, vous voyez, on est, il s'appelle Jean-Baptiste Gélabert, son nom de gloire, c'est Bautista, il y a tout ça. C'est des choses. Qu'est-ce qui les pousse à refaire un nom, hein, qu'est-ce qui pousse? C'est aussi une des questions de ce livre. Je dis souvent que Charnay, c'est mon pseudonyme le plus commode, mais je suis trop fatigué pour, voilà, mais.
On écrit pour le remplir, le vide central.
Ouais. Voilà. Alors là, sur 400 pages, j'ai rempli.
Oui.
Mais bien sûr.
Et alors, vous dites quand même, au fond, j'aime les mots, mais pas la manière dont nos têtes de gondole en font commerce.
Oui, la semaine dernière, j'ai un peu exagéré en me plaignant tout le temps, mais c'est une gêne technique à l'égard du Mundillo, oui.
Oui, littéraire.
Des Mundillo. Oui. Y compris du Mundillo Torin,
qu'on fréquente.
Qui est
le business.
Une gêne technique.
Voilà.
C'est pas ma place.
Oui.
C'est pas ma place. Mais j'ai qu'à pas faire de livre.
Oui. Alors,
je me sens vraiment pas. Enfin, je me sens pas à ma place et on me fait toujours sentir que je ne suis pas à ma place. Voilà.
Oui. On a dit la semaine dernière, vous étiez quelqu'un de déplacé.
C'est la définition de Gérolin de l'écrivain d'ailleurs.
Et là, vous dites, nous sommes tous des imposteurs de passage. Hmm? Où est l'imposture ?
Ben, il y en a toujours aussi. Donc, de toute façon, je me charge beaucoup dans tous ces livres. Des fois, on dit même que je m'accuse trop. Mais c'est le prix à payer pour faire ce genre de choses. Il ne faut pas se...
Mais vous vous maintenez.
Il ne faut pas s'épargner.
Vous vous maintenez. Et vous dites, se maintenir est épuisant. Vous le dites à propos de Batista, puisqu'il abandonne à un moment donné. Il ne peut pas se maintenir.
Voilà.
Bon, donc il y a un moment où on n'arrive plus à se maintenir.
Voilà,
à la fois le torero et à la fois l'écrivain aussi.
Hein. Ça m'est arrivé physiquement, personnellement, deux à trois fois. C'est une belle phrase, je ne me souviens plus que je l'avais écrit, mais c'est une belle phrase. Se maintenir est épuisant.
Oui.
C'est vrai.
Oui. Je crois qu'on le dira jamais.
D'ailleurs, je vous ai dit, là, je suis fatigué, l'émission sur Emma, on va attendre.
Je
suis fatigué, là, c'est le livre qui sort, la pression,
sur
le corps. Vous voyez, je dis, Antoine, je vais être bien dans ma tête pour vous parler de bien où je peux, mais y compris l'expérience de sortie d'un livre, là, dans laquelle je suis, est toujours, c'est une perturbation. C'est très compliqué ce qui arrive, comment on est soi, le corps, le corpus, c'est très compliqué.
Alors, on va revenir. Se maintenir est épuisant, mais après, il y a le sursaut. Voilà, il y a un sursaut et il y a un rétablissement en définitive. C'est vrai pour Bautista,
c'est
vrai pour vous.
C'est l'éthique, c'est la leçon.
Voilà.
Si tu vas dans l'arène, tu fais tout ce que tu dois faire une fois que tu es dans l'arène.
Ils n'ont pas le choix, quand même. Ils sont là, c'est ça ou rien, parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Là.
C'est l'éthique profonde des taureaux.
Je pense que l'imposture chez un torero se voit tout de suite. Ce serait terrible.
Ça se voit.
Personnellement, j'en ai vu. Je me souviens de Elviti, qui a été un grand torero, à la fin des années 60, début 70. Tuer un taureau de travers, par le côté, sous la pluie. Il a fallu être lynché. Il y a eu quelque chose de... C'était une fin absolument à pleurer.
C'est des soirs terribles.
Alors, Bautista, il va revenir à Pâques 2005. Donc, vous aussi, vous allez revenir... avec
j'ai écrit
ce livre,
des chapitres un peu bizarres pendant qu'il n'est pas là, parce qu'il faut bien meubler. Voilà. Et puis, en 2005.
Voilà. Quand il n'est pas là, quand même, il y a ce côté.
Il y a des chapitres.
On sent le sol se dérobe sous vos pieds, quand même.
Parce que je venais de commencer et tout.
Mais vous vous maintenez. C'est extraordinaire.
Et puis finalement, 2005, à la super générale.
Voilà.
Monsieur revient.
Voilà. Il revient.
À Arles.
Il revient.
Et il repart à zéro. Voilà. Parce qu'il repart à zéro, il a refait des petites arènes et tout. Je monte des corridas à Château-Renard, etc. Enfin, vraiment, là, faut reconquérir sa place,
Et il y arrive.
Et il y arrive. Et puis, par le haut, ensuite. Puisque le livre se termine sur cette fin, la triomphale à Dax de légende sous l'orage.
C'est la fin. Une corrida qui est une corrida
de grâce, de feu, sous l'orage, exceptionnel.
Oui. Où il coupe
deux oreilles, la queue, et puis il y a des arbres qui tombent tellement l'orage est puissant.
La foudre, manque rien. On est là dans un film, un grand film.
Le cinéma est parfait.
Cinéma extraordinaire.
Des grêlons, la moitié des gens s'en vont tellement, il pleut.
Alors, on va revenir.
Dax-Vildo.
Oui.
Dax-Vildo.
Alors, on revient sur le fond quand même de l'ensemble de votre œuvre. C'est l'absence du père, la défaillance du père. Et vous dites, je n'ai connu qu'un seul côté du temps, celui de la mer. Un seul côté du temps, celui de la mer. Et donc, les gens qui n'ont connu que ce côté du temps, celui de la mer, ce sont des garçons pas comme les autres, vous dites.
On s'est plus séparés. C'est quelle page, ça, c'est bien?
Alors, c'est page 160.
Je ne me souviens plus, mais oui, c'est l'objet d'un autre livre, mais c'est, écrire sur ce côté du temps. Voilà, c'est une dimension plus dure, ça fait duration.
Le ménage de la vie.
Ce côté du temps.
Et vous dites également...
C'est pour ça que je regarde avec autant d'avidité, au fond, des spectacles, parce que c'est des espaces qui m'ont manqué, enfin, dont je n'ai pas la moindre idée, quoi.
Oui.
tout a été vu par un petit garçon dans les jupes de sa mère, quoi. Comme dire, oui. quand Barthes dit tout ça doit être imaginé, comme dit par un paysage de roman, tout ça doit être imaginé, comme dit par un petit garçon dans les jupes de sa mère, oui. Je pense. Oui. Je sais pas, avec l'âge et sa disparition, je m'en rends compte de plus en plus. De plus en plus. C'est tout le contraire d'un effacement. C'est un creusement de cette expérience assez vertigineuse depuis sa disparition.
Et vous reprenez une expression de Pierre Réverdi. Alors là, j'ai été très heureux de lire ça, parce que c'est une lettre de Pierre Réverdi à Jean Rousselot. Or, il y a peu de gens qui connaissent ces lettres de Réverdi à Rousselot.
Quand Rousselot fait ce que j'ai fait sur Bautista, un petit livre sur lui, et il lui dit, avant, génial la lettre.
Oui. Et bon, moi, j'ai été ami avec Jean Rousselot, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. C'était un type généreux, c'est vraiment extraordinaire.
Un très beau livre sur Réverdi.
Oui, voilà. Et vous dites, y voir clair sous l'eau.
Sous l'eau,
voilà.
Exceptionnel.
Bon.
Voilà. Et ben, c'est des éléments que j'ai, quand j'ai relu ça, je t'ai appliqué à mon expérience avec Bautista, c'était ça, il m'a jeté dans l'eau, puis
voilà.
Mais c'est magnifique qu'il dit ça, il faut que vous y voyez clair. Vous l'avez la page que toute la lettre est exceptionnelle.
Alors, c'est page 162.
Ah oui, c'est quand il est pas là que j'essaie de me débrouiller avec ça.
162. Le truc de.
Oui, il est bien entendu que ce qui importe, c'est ce que vous inventerez.
Oui.
C'est-à-dire ce que vous pourrez mettre de vous, même dans la façon de dire ce que vous direz. Il y a une phrase extraordinaire. Si on pense que c'est une lettre pour la qualité d'écriture de ces époques-là, sans faire trop réac, 16 mai 50, écoutez comment on s'écrivait. C'est autre chose que le mail. Avez-vous remarqué aussi que pour parler d'un homme, en s'en tenant au vrai drame, il faudrait pouvoir dire ce qui se passe dans son être le soir, par exemple, quand il se trouve la lumière éteinte entre ses draps. C'est une lettre. C'est-à-dire rien, le plus grand désespoir sans mots, dans le néant de la vie, dès qu'on la sent sans témoin, il faut, cher Jean Rousselot, que vous tentiez d'y voir clair sous l'eau.
Oui, formidable. Oui. Alors, malheureusement, vous devez partir, j'y arrive, et on va donc devoir finir. Vous dites, chaque livre est une demande d'amour. Bon, est-ce que, et j'aurais voulu que l'on puisse lire, mais peut-être, si vous le voulez bien, malgré votre départ, je vais finir peut-être cette émission par lire Le Miracle Irina, ce que j'appelle moi Le Miracle Irina, cette jeune russe donc qui finit ce livre avec une grande clarté d'espérance. Hein, ce livre se finit quand même sur cette grande lumière.
Sur un cut, vraiment, sur un cut.
Voilà. Et chaque livre est une demande d'amour. Vous dites ça, page 379. Ce livre-là est une demande d'amour.
Une demande d'amour fraternelle,
voilà. Tout à fait.
Fraternelle.
Voilà.
Quelques lecteurs, sans doute.
Voilà. Donc, à lire absolument, puisque vous nous quittez.
Merci de votre générosité.
Donc, à très bientôt.
Long accueil. Donc,
à très bientôt.
Et puis, après Antoine Maz, on fera une émission tout exprès.
Absolument. Absolument. Alors, je rappellerai le titre. Mais je vais lire ce dernier. Au moment où vous allez partir, je vais lire quand même ces dernières pages qui me semblent devoir être citées.
Vous les lisez,
voilà. De la jeune russe. Oui. Peut-être en deux mots, nous dire comment vous l'avez connue, ce jeune russe.
C'est une, par un ami universitaire, Philippe Met. C'est une fille qui fait une thèse, il faut le faire aux États-Unis avec le politiquement correct, qui fait une thèse sur la présentation plastique de la tauromachie.
Voilà. Très bien. Bien. Alors, nous allons lire donc la jeune russe.
Je vous écoute, puis j'y vais.
Ah bon. Ah ben, à ce moment-là, lisez-le.
Non.
La jeune russe. Il faudra que je pense envoyer, une fois rentré de Bilbao, les références à cette fille. Les références sur peinture et tauromachie à cette jeune passante avec laquelle j'ai déjeuné lors de mon dernier passage au soleil d'Austerlitz. C'était le vendredi 18 août, à 13h. Juste avant de prendre le train de 16h15 pour Bonneval. J'étais encore étourdi par mon dîner la veille chez Serge Lama, par le retour à mon hôtel de la place d'Italie vers les 3h du matin. Les 4x20 ans du chanteur se couchent tard. Champagne rosé de chez Ruinard et chemin blanc de chez Fournier. Nous avons parlé du destin, en buvant la nuit à petite lampée. C'est pas nous qui tenons les cartes. Selon la morale d'une chanson parolée par mon chaman lyrique, nous avons longuement parlé de la place du père. Dans la cage de cette histoire, où je ne suis bon qu'à tourner comme un lion réincarné en rat. J'étais arrivé quelques minutes avant cette fille. Le temps de me rabibocher avec ma gueule. Il faisait moins chaud qu'aujourd'hui. Une table en terrasse, à l'ombre du grand auvent jaune. Ma fatigue a commencé par l'écouter parler. Dans le fracas des travaux qui font depuis des années Hidalgo, tremblait partout le sol à Paris. J'adorais cet accent fait d'accent. Le français parlé par une jeune Russe, élevée à Montréal et faisant depuis peu ses études à Philadelphie dans la prestigieuse université de mon cher brother, Philippe Mette. Elle était d'une éblouissante intelligence. Irina, elle. J'étais comme suspendu à ses lèvres. Au fil de sa voix mélodieuse, elle s'exprimait sur tous les sujets, avec une exquise modestie. Avec ce surcroît de précision presque précieuse, propre à certaines étrangères, sa façon de timbrer autrement les mots, de les rythmer dans un phrasé légèrement décalé, rappelait le charme des interventions orales de Jeanne B., dont nous étions si nombreux à déplorer la récente perte. Cette France d'avant dont le manque creuse un peu plus chaque jour. Irina, elle, me racontait l'histoire mouvementée de sa famille. Des dissidents politiques ayant fui l'URSS sous Brejnev. Elle détaillait à ma demande ses brillantes études d'élèves surdoués, ses récentes recherches en esthétique. Irina préparait un projet de thèse sur les représentations plastiques de la corrida. Geste presque extraordinaire dans le contexte de la political correctness made in USA. Après plusieurs hypothèses, elle avait pris le parti d'appliquer une partie de la théorie lacanienne à son analyse des œuvres d'un impressionnant corpus. De Goya à Picasso et au-delà, elle me posait 1000 questions sur les lettres à Juan Batista. Dans leur première version de 2008. Elle se montrait passionnée par la problématique de l'autofiction, l'interaction du vivre et de l'écrire au cœur de mon travail depuis Prose du Fils. Elle se préoccupait particulièrement de savoir quelles pouvaient être les répercussions du porté brossé d'elle sur les personnes ayant servi, volontairement ou non, de modèle aux principales figures de mes livres. Sans savoir si l'appellation de « personnage » dans ce cas convenait ou non. Je lui confessais que même l'appellation de « livre » reste suspecte. Pour le fatras de telle liasse, à l'ordre de plus en plus approximatif. Je lui répète que je les écris pour passer le temps, ces chapitres de mon autofiction, que j'en avais la force et je ne ferai rien, mais rien du tout. Les cheveux de cette belle brune aux yeux subtilement bouclés s'éclaircissaient, en prenant confiance au fur et à mesure dans sa propre parole. Je lui faisais parfois répéter un mot, une phrase, à cause du bruit d'un marteau-piqueur ou d'un camion-benne. Le temps passait plus vite que je ne l'aurais voulu, pour approfondir un si prometteur entretien. Je demandais son âge à Irina. 20 ans, depuis quelques mois. Cette réponse me donna le vertige. Bref soubresaut du temps. Tant de maturité me sidérait. Chez un être si jeune, elle était plus jeune que mes propres enfants. 40 ans d'écart entre nous. Le titre d'un vieux film de Godard m'a traversé la tête. Sauve qui peut, la vie. Ces 3 heures en compagnie de l'intelligence et de la beauté m'avaient soudain fait renaître, refaisant presque de moi un numéro 1 du top album. Je dis en souriant à cette fée tombée du ciel russe qu'elle n'était pas née au moment de mes premières notes de ce livre, en décembre 2002, qu'elle avait juste l'âge de ce nouveau bouquin, juste l'âge de ses lettres à Juan Batista 20 ans après.
Merci pour cette lecture. Voilà. Je suis vraiment en retard. Merci.
Voilà. Alors, lettre à Juan Batista, 20 ans après, d'Yves Charnay, publié au Diable Vauvert. Nous allons maintenant aborder un autre écrivain, un autre poète. Il s'agit de Abdellatif Lahabi. Alors, Abdellatif Lahabi, il était à Toulouse la semaine dernière, invité par l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, qui fêtait leur 7e centenaire. Excusez du peu, une académie de 700 ans. La nôtre ici, à Toulouse, l'Académie des Jeux Floraux. Alors, pour ces 700 ans, l'Académie a voulu fêter cela dignement, et elle a créé plusieurs prix, des prix importants, qui n'existaient pas avant donc cette date, de 2024, elle a créé le prix de poésie, grand prix de poésie d'expression française, qui s'appelle le prix Georges Maillols, qui est le prix, donc ce nom a été donné de Georges Maillols, puisque c'est le dernier secrétaire perpétuel de l'Académie qui a disparu, le dernier à disparaître, le Georges Maillols, qui a été président de l'université Jean Jaurès, ici à Toulouse, un écrivain, et une figure excessivement prestigieuse, donc, de Toulouse. Et donc, ce prix, Georges Maillols, a été décerné à l'écrivain marocain Abdellatif Lahabi. Abdellatif Lahabi, c'est une figure, majeur du paysage littéraire francophone, bien sûr. Il est né en 1942 au Maroc, à Fès, et il a fondé, dès 1966, une revue, qui est une revue mythique, qui s'appelle la revue Souffle. Et cette revue Souffle, elle a subverti le champ littéraire et culturel au Maghreb. Et son combat pour la liberté a valu à Abdellatif Lahabi d'être longtemps emprisonné au Maroc. En réalité, il a vécu Abdellatif Lahabi et il a fondé cette revue Souffle pendant le règne de Hassan II. Règne donc de Hassan qui était un règne. Hassan était un des personnages les plus intelligents qui a eu, à mon sens, comme dirigeant du Maroc, d'une intelligence, mais une intelligence diabolique, et qui avait compris aussi que cette revue Souffle, bien que ne parlant que de poésie et de littérature, pouvait être un danger pour le régime autoritaire qu'il avait mis en place, qu'il entendait maintenir, bien entendu, en place. Et donc, Hassan II a vu ce danger et il a été l'instigateur d'une répression, une répression inouïe que l'on a totalement oubliée maintenant, puisqu'il y a eu des dizaines quand même de milliers de morts à cette époque-là, dans ces années 60, une répression terrible. Alors, cette répression a entraîné effectivement l'emprisonnement de beaucoup d'auteurs de cette revue Souffle et d'auteurs marocains, Tahar Ben Jelloun par exemple, pour ne pas le citer. Mais lui, Abdellatif Lahabi, il a eu la chance un petit peu de pouvoir continuer. Oh, il n'a pas continué longtemps, il a continué jusqu'en 1972. La répression a commencé vers les années 69-70, un peu avant peut-être. Je parle de la répression d'emprisonnement des poètes. Et lui, il a été arrêté en 72. Il a été condamné à 10 ans de prison. 10 ans de prison pour des écrits. Vous vous rendez compte? 10 ans de prison. Il en a fait 8. Il en a fait 8 dans des conditions d'une grande cruauté. Et puis, il est allé à Paris. Et depuis 1985, il vit principalement en France. Bon, là, quand il est revenu, il était peu de temps avant de retour de Fès. Alors, Abdelatif Labi, il a une œuvre qui est une œuvre considérable. C'est ce qu'on appelle une poésie du présent, c'est une célébration inconditionnelle de la vie, malgré le temps qui passe, et je dirais également, malgré toutes les ironies de la vie, malgré tous les déboires de la vie, malgré toutes les cruautés de la vie, il va la célébrer inconditionnellement, célébrer le vivant. Donc vous rendez compte, avoir vécu tout ça et avoir cet enthousiasme pour la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un poète qu'il faut lire, un poète qu'il faut célébrer comme lui célèbre la vie. Et donc Abdelatif Labi, il scrute avec ironie, bien entendu, ce qui l'entoure, nos sociétés, nos civilisations, et il va, avec cette ironie et aussi cette dérision de soi qui est très importante chez lui, la dérision de soi, parce que ça remet les choses à leur place réelle. C'est la vie qu'il faut célébrer. C'est l'existence, le fait qu'on soit là, là et ensemble. Voilà. Il explore donc les aléas de l'existence. On lui a remis ce grand prix et je lui ai promis que le lendemain, puisqu'il y avait un récital qui se donnait à l'hôtel d'Assesa, à Toulouse, que le lendemain, je lirai des extraits de son dernier recueil qui s'appelle « À deux pas de l'enfer ».« À deux pas de l'enfer », et c'est édité aux éditions Le Castor Astral, collection bien sûr poésie. Alors, il a reçu, Abdelatif Labi, de prestigieux prix en poésie, et le dernier étant celui de Toulouse, et pas le moindre, hein. Et il est notamment l'auteur de L'espoir à l'arraché, que j'ai lu ici, je fais l'objet d'une émission il y a quelques semaines, également de Presque rien, un autre de ses titres, La terre est une orange amère, dont nous avons parlé évidemment ici, et La poésie est invincible. Voilà, je vais vous lire donc des extraits de ce recueil, de À deux pas de l'enfer, d'Abdelatif Labi. Alors, l'éditeur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Abdelatif Labi ouvre grand les portes de son univers poétique. Dans une langue à l'imaginaire inépuisable, ses poèmes donnent corps aux souffrances humaines qui agitent le monde. Il distille les réflexions d'un homme qui a traversé de multiples combats et connu de nombreuses épreuves. Son regard universel nourrit en retour sa propre expérience. Témoin de son existence, il décrit avec humour le vieillissement du corps, le sien, et les désillusions qui l'accompagnent. Il chante aussi la disparition des personnes qu'il a connues et son amour pour celles encore présentes. Loin d'être l'aboutissement d'une œuvre, ce nouveau livre tend une main pleine d'espoir vers un avenir meilleur. Voilà. Alors, c'est quand même extraordinaire. Donc, cette persévérance... malgré tout, dans cette espérance hein, qui quand même caractérise Abdelatif Labi et dont on ne dira jamais, jamais assez de bien. Donc, Abdelatif Labi, je vais vous lire, nous y voilà, cet extrait donc de ce recueil « À deux pas de l'enfer ». On nous a menti. C'est donc ça l'enfer? Depuis toujours, on nous a menti. Les livres que l'on ne peut toucher qu'avec des gants, ou après s'être lavé à grande eau, et qu'il faut lire à la lettre, au premier degré. Sinon, les propagateurs de la foi, souvent barbus, qui, du haut de leur chair, pointent sur nous des index accusateurs, plus longs que leurs mains, des compteurs publics, et des griots sans formation, dont la tâche est trop facile, tant leur public habituel est crédule, d'une façon ou d'une autre. Nous y avons cru, à ces histoires, jusqu'au jour où nous avons ouvert les yeux sur l'enfer que nous vivons depuis des siècles, et découvert qu'il n'avait rien à faire avec celui que l'on nous a décrit, inculqué, et gravé au fer rouge dans nos mémoires. Alors, c'est quoi l'enfer ? Voix 1. Je suis une femme, dans un pays où je dois me taire. Si je veux avoir la vie sauve, et selon l'humeur des mâles qui règnent ici, mettre un chiffon sur la tête ou me couvrir le visage, sinon le corps de la tête aux pieds, sans parler des mains. Malgré cela, après un silence qui m'a non pas rongé, mais bouffé de l'intérieur, j'ose enfin crier « Vive la liberté !» On m'arrête comme une voleuse. On me bat comme une mule rétive. Et on me jette dans un cachot. À minuit, des soudards viennent me violer à tour de rôle. Après cela, je me demande, suis-je encore un être humain? 2. Je suis un poète. J'écris en conviction. Je mets mon cœur à nu. Et je refuse d'emprisonner mes idées, même dans la cage d'un canari. Un jour, à l'aube, on vient me chercher. On me met un bandeau sur les yeux, on me conduit quelque part, où l'on me fait subir des sévices inventés à l'ère colloniale, puis rendus plus sophistiqués par les torsionnaires des dictatures latino-américaines. Et comme la femme de tout à l'heure, on me jette dans un cachot, dont on ne me fait sortir que pour me condamner à un nombre irréel d'années de prison. Là, on me sépare de celles et ceux que j'aime. On étend un voile noir sur le soleil radieux de mon pays et on me prive tout simplement de ma jeunesse. 3. Je vis dans un pays perdu où pas une goutte d'eau n'est tombée depuis des années. Je suis en âge de travailler, mais pas de travail. Je suis en âge d'aimer, mais qui voudra d'un loqueteux, d'un va-nu-pied? Je rêve d'aller là où l'on mange 3 fois par jour, mais je n'ai pas un sous-vaillant pour faire le voyage. Je ne fais rien, ni de mes bras, ni de ma tête. Rêver m'est inconnu. Je suis moins vivant qu'un âne, un cafard. Je suis rien, moins que rien. Qu'on ne vienne pas me parler de notre enfer. Voilà. Donc, il est clair que l'enfer, pour beaucoup d'êtres humains actuellement, c'est pas ailleurs, hein. C'est ici. 4. Je suis au milieu de la guerre. Ma maison a été détruite. Je cherche sous les décombres si quelqu'un de mes proches est encore en vie, mais le bruit incessant des explosions m'empêche d'attendre la moindre plainte, le moindre appel au secours. Je n'ai plus ni passé, ni avenir. Quant au présent, il ne m'est plus rien. Il se réduit à l'odeur familière de la mort. Tout autour, des flammes et encore des flammes. Elles font partie du décor par ce froid implacable qui me glace les veines. À quoi me sert d'être secouru? Ma dernière envie, c'est de rejoindre les miens sous les décombres. 5. Je suis un enfant issu d'un pays maudit par le ciel, la terre, les hommes-chiens et les chiens-hommes. Je ne sais pas pourquoi on m'a embarqué en pleine nuit sur ce canot pneumatique qui, m'a-t-on dit, aller vers une terre où j'aurai tout ce qui m'a manqué dans mon village d'origine. Le canot vient de chavirer. Beaucoup de mes compagnons de voyage se sont noyés, et d'abord mon père, qui avait l'habitude de me porter sur son dos comme une femme. J'ai fermé les yeux et, quand je les ai rouverts, je me suis trouvé dans un grand bateau, avec plein d'inconnus autour de moi, parlant toutes sortes de langues bizarres. Je suis seul. J'ai décidé de ne pas pleurer, d'oublier mon nom, ma terre, ma mère, mon père et toute la tribu. Je suis devenu inaudible, invisible, inodore. Autour de moi, les rescapés se réjouissent d'être arrivés. Arrivés où ? Me dis-je, dans ce nulle part. 6. Je suis le mouton noir, celui par qui la différence arrive et met tout sans dessus dessous. Quoi que je fasse, on me fera payer un jour mon crime originel, celui de ne pas être né au bon moment, au bon endroit, de ne pas parler à la perfection la bonne langue, apprécier la bonne cuisine, bien me tenir à table, rester à ma place, ne pas cracher dans la soupe de l'histoire que l'on m'a inculquée à l'école, dans la rue, au travail. 7. Je suis un ermite. Ma décision a été prise depuis longtemps, lorsque j'ai compris que mes semblables n'étaient pas mes semblables, mais des loups, déguisés en mille variétés d'agneaux, ou en millions de chiens et de chats de compagnie. Lorsque écouter la langue qui nous sert à communiquer est devenu pour moi une torture, lorsque l'art, le livre, la musique ont commencé à se négocier dans des marchés parfaitement identiques à ceux où jadis l'on achetait et vendait des esclaves. J'ai perdu l'ouïe, le toucher, le goût. Bientôt ce seront l'odorat et la vue. Pendant des journées, j'oublie de manger et même de boire. Mais au lieu de dépérir, je continue à brûler de l'intérieur. Ajoutez à cela que les flammes qui prospèrent à l'extérieur atteindront bientôt mon repère. Alors qu'elles l'envahissent et qu'on en finisse. Voilà. Nous aussi, nous en finissons pour cette fois-ci. Abdelatif Lahbi, à deux pas de l'enfer, le castor astral, poésie, livre qui vous coûtera 16 euros. Mais nous allons revenir, bien entendu, et j'espère, avec Abdelatif Lahbi, nous inviterons donc pour une émission, nous allons revenir sur ce très beau livre, à deux pas de l'enfer. Ainsi s'achève les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitane et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.